Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Je reçois Antoine Amarilly, maître de conférences en informatique à Télécom Paris. Sa recherche porte sur l'informatique théorique, mais il emprunte aussi parfois des chemins de traverse. Il est ainsi engagé pour le climat et pointe le fait que, dans les disciplines liées à l'informatique, le modèle d'évaluation des chercheurs reste encore fortement corrélé à leurs déplacements dans les congrès internationaux, avec à la clé un bilan carbone élevé. Bonjour Antoine. Tu es à l'origine avec d'autres chercheurs de ta discipline d'un manifeste publié en 2020 où tu engages les chercheurs en informatique théorique à diviser par deux leurs émissions de carbone. Peux-tu nous parler de ce manifeste ?
Ce manifeste, il s'appelle TCS4F, Theoretical Computer Scientists for Future. C'est adapté du mouvement Scientists for Future, si je me souviens bien. Et donc avec d'autres chercheurs de mon domaine, l'informatique théorique, on a lancé cette initiative pour essayer d'encourager les chercheurs à réduire l'empreinte carbone de leurs activités. Et donc ce manifeste prescrit pas un mode d'action, mais il prescrit un objectif, qui est celui, je crois, des Nations Unies et de l'Union Européenne, qui est de diviser par deux l'empreinte carbone d'ici à 2030 par rapport au niveau pré-Covid. Donc ce manifeste, il date de juste avant le Covid, donc on a sorti ça juste avant que l'activité de recherche change beaucoup à cause de la pandémie. Et donc oui, ce manifeste a été signé par de l'ordre de 200 chercheurs à titre individuel. Et l'objectif est aussi de fédérer des groupes de recherche, donc des équipes de recherche, des laboratoires et des congrès internationaux qui sont une grosse source d'émissions vu que les chercheurs s'y rendent pour présenter leurs travaux.
Et donc, tu parlais de la pandémie. Est-ce que le Covid a changé les choses et comment ? Et quelle est la situation aujourd'hui ?
Le Covid a changé les choses de façon très locale sur un temps très court. Du jour au lendemain, c'était plus possible de voyager, vu que les gens étaient principalement donc restés chez eux à cause de la pandémie, mais aussi les voyages internationaux n'étaient généralement pas possibles. Et donc tous les congrès qui se tenaient de façon annuelle ont dû se reconfigurer en urgence et sont naturellement organisés en ligne. Donc l'idée de faire des congrès en ligne, ça existait depuis longtemps dans l'esprit comme une solution qui serait possible pour éviter de trop voyager, mais personne n'imaginait sérieusement qu'on puisse la mettre en pratique. Et soudain, la pandémie a déclenché ça. Donc ça a été parfois très difficile pour les chercheurs de se réadapter sans s'être vraiment préparé. Et après, avec la levée des restrictions, progressivement, les conférences se sont remises à avoir lieu en personne, alors de façon un peu frileuse au début, parce que organiser une conférence, ça nécessite évidemment de s'y prendre plusieurs mois à l'avance, et c'est bien d'avoir quand même une forme de visibilité sur est-ce que la pandémie va refluer ou pas, est-ce que les gens vont vraiment venir ou non. Donc les premières conférences qui ont lieu après la période du Covid ont lieu en hybride, sur un mode de participation en présence, avec certains exposés en visioconférence. Et maintenant, de plus en plus, les conférences reviennent à leur mode d'organisation précédent, où les gens voyagent de façon physique et où le recours à la visioconférence est essentiellement exceptionnel. Mais tous les chercheurs gardent le souvenir d'avoir participé à des congrès en ligne, qui n'est pas forcément un bon souvenir pour eux, mais qui parfois, quand ça s'avère compliqué de voyager ou quand les gens se découvrent une conscience climatique, les gens repensent au fait que c'était possible aussi de présenter sa recherche sans prendre l'avion pour aller au bout du monde.
Et est-ce que tu as des ordres de grandeur de ce que ces congrès représentent en termes d'émissions de CO2 ?
Malheureusement, une de nos principales revendications, ce serait que les congrès estiment l'empreinte carbone de leurs activités. C'est quelque chose qui n'est pas typiquement fait. Et à mon avis, ça ne devrait pas être si compliqué que ça pour des organisateurs de congrès de demander aux participants d'où ils viennent et comment ils voyagent pour avoir justement accès à ce chiffre et pouvoir suivre son évolution avec le temps. Si on veut que l'empreinte carbone se divise par deux, la première chose à faire, c'est de la mesurer pour savoir comment ça évolue par rapport à l'objectif. Je dirais qu'en gros, en informatique théorique, il y a de l'ordre d'une vingtaine à une cinquantaine de conférences internationales dans les différents sous-domaines de l'informatique théorique. Donc on peut se dire que pour tout ça, il y aura à chaque fois de l'ordre de la centaine de participants qui vont souvent être internationaux et venir potentiellement de très loin. En intelligence artificielle, effectivement, donc en dehors du cadre de l'informatique purement théorique, les plus grosses conférences en informatique sont celles d'IA. Et là, on est sur un nombre de participants qui se compte pas en centaines, mais en milliers, voire en dizaines de milliers. Et donc, à ma connaissance, ces grandes conférences n'ont pas fait non plus la mesure de l'empreinte carbone de leurs activités, mais il faut se dire que oui, une conférence d'IA à 20 000 participants qui viennent de toute la planète, forcément, ça doit générer des émissions proportionnées. Si on fait une règle de 3 par rapport à ce que je vous disais, ça doit se compter en milliers ou en dizaines de milliers de tonnes d'équivalent carbone. Et ce serait bien d'avoir les chiffres exacts pour le coup, histoire de pouvoir suivre comment ça évolue.
Là, tu parles de l'impact climatique, mais ce n'est pas le seul impact. Tu as aussi réfléchi à la problématique de l'inclusivité, puisque en informatique, s'il faut voyager pour publier, les gens qui ne peuvent pas voyager, logiquement, ne peuvent pas publier, c'est ça ?
On s'est d'abord posé cette question-là à partir du climat. Et c'est vrai que c'est drôle, cette culture d'aller à des congrès, on ne l'avait pas vraiment remise en question précédemment. Donc pour être précis, c'est une culture qui concerne la recherche en informatique, pas seulement en informatique théorique, mais qui est pour le coup assez spécifique au monde informatique. Je crois que dans d'autres disciplines, même au sein des sciences, il y a aussi évidemment des congrès. Mais ces congrès sont pas perçus pareil par les chercheurs, parce que en informatique, la recherche qu'on réalise est d'abord présentée dans ces congrès, publiée dans les actes des congrès, et c'est ça la publication qui compte pour l'avancée de la carrière des chercheurs, avant éventuellement, même pas forcément systématiquement, de donner lieu à une publication dans un journal. C'est une originalité de la discipline, alors que dans d'autres disciplines, c'est la publication dans un journal qui prime, et les congrès, c'est quelque chose en plus, mais qui est moins obligatoire, on va dire. Et donc, ces congrès-là, il nécessite un voyage physique, ce qu'on remettait pas vraiment en cause au départ. Avec le climat, on s'est demandé si c'était vraiment une bonne idée. Et puis, avec ça, on se rend compte que, en fait, donc, pour des gens comme moi qui ont, par exemple, pendant ma thèse, j'ai bénéficié de financements qui me permettaient de voyager. Je viens d'un pays, la France, qui rend facile de voyager à l'étranger en termes de visa ou de possibilités de voyage. J'ai pas de problème de santé ou de contraintes d'impératifs familiaux qui me forceraient à rester chez moi. Mais il y a évidemment, on se rend compte que pour des chercheurs de certains pays, le fait d'avoir un visa pour participer à une conférence ne va pas du tout de soi. Le fait d'avoir le financement pour prendre l'avion pour aller dans un pays. Donc en fait, quand il y a aussi des différences de revenus entre pays, aller aux États-Unis, aller en France, ça peut être très cher et ça peut être difficile d'accès pour les chercheurs. Alors on a tendance à se dire que ça concerne qu'une minorité de gens, au sens où quand on va en congrès, c'est pas les gens qu'on a tendance à voir. Et là, on a l'image qu'on a de l'excellence scientifique, c'est un peu l'entre-soi de chercheurs qui ont les moyens de prendre l'avion et d'aller se retrouver en congrès année après année. Mais forcément, si on a des barrières comme ça qui empêchent la participation au congrès, ça évite que les chercheurs d'autres pays puissent en quelque sorte rejoindre la communauté scientifique. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est très problématique aussi. Et c'est pas seulement hypothétique, parce qu'on a observé, il y avait une étude qui a identifié que pendant la période du Covid, pour des conférences qui sont passées en ligne sans préparation préalable, il y a eu davantage de participation de femmes en proportion par rapport à la proportion avant le Covid. Alors pourquoi les femmes? Peut-être par rapport à des contraintes familiales qui font que les femmes peuvent moins facilement s'organiser pour des voyages professionnels que les hommes. Donc il y a aussi un enjeu, et c'est aussi un levier qu'on essaie d'utiliser pour faire changer les confs, parce que les confs n'ont pas trop l'habitude de réfléchir à leur empreinte carbone et de remettre en cause leur fonctionnement, mais elles se sont un peu saisies de la question de la diversité et de l'inclusivité pour ce qui est d'attirer des participants d'autres origines, pour ce qui est d'être inclusif vis-à-vis des femmes, donc pour éviter les incidents de harcèlement et de sexisme pendant les conférences. Ça, les conférences se sont un peu organisées pour. Il y a généralement des responsables de la diversité au sein des conférences pour essayer d'agir dans ces directions-là. Et donc, en fait, on peut les mettre face à une contradiction béante, qui est que ce système de conférences ne convient pas aux gens qui sont pas en mesure de voyager. Et l'accès aux conférences, comme je le disais en informatique, c'est la condition nécessaire pour continuer dans la discipline, pour avoir un poste dans les comités de recrutement. Quand on cherche à recruter des chercheurs, on regarde leur CV, on regarde leurs publications, et il faut obligatoirement qu'ils aient publié dans les grandes conférences de leur domaine. Sinon, on prend même pas au sérieux ce qu'ils font, parce qu'on n'a pas les ressources pour évaluer vraiment la valeur scientifique de leur contribution. Donc aujourd'hui en informatique, si on veut avoir un poste comme chercheur en informatique et qu'on n'a pas envie de prendre l'avion pour voyager ou qu'on n'est pas en mesure de le faire, c'est vraiment très compliqué, je pense.
Tu l'as déjà un peu dit, du coup j'aimerais que tu précises pourquoi la publication dans les conférences est requise dans la recherche en informatique alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres domaines, je pense à la recherche en physique ou en chimie ou même en mathématiques, où on publie dans les journaux mais de façon déconnectée à la présence dans les conférences.
Je me suis un peu posé la question de pourquoi. Je ne sais pas s'il y a des travaux historiques sérieux sur le sujet. J'ai l'impression que c'est parce que l'informatique est une science plus jeune qui est apparue à un moment où l'aviation était déjà développée et où donc ça s'est structuré autour de congrès parce que les gens étaient en mesure de voyager. Et donc ces congrès qui étaient au départ informels parce que le domaine était aussi informel, se sont progressivement formalisés, sont devenus l'endroit de référence où publier des travaux. Et les journaux sont plus ou moins arrivés après. Alors que j'imagine que dans d'autres domaines plus anciens qui existent depuis plus longtemps que l'avion et les voyages internationaux à grande échelle, enfin, si on imagine comment la recherche faisait au 18e ou 19e, c'était déjà un mode de fonctionnement à base de journaux ou de revues où les gens s'échangeaient des articles par correspondance et on ne pouvait pas s'attendre à ce que les gens voyagent avec les moyens de l'époque pour aller présenter leurs résultats à des congrès. Donc c'est cette différence-là qui fait que dans d'autres disciplines, j'ai l'impression, si on veut publier pendant sa thèse, par exemple, ou dans des journaux. On peut le faire sans voyager. Et les congrès qui existent sont une occasion pour la communauté de se rencontrer, mais on peut ne pas y participer et ça se verra pas sur le CV. Ça se verra. Alors après, il y aura une différence en termes d'opportunités de réseautage. Les gens qui voyagent plus volontiers que les autres iront à davantage de ces événements, donc ils seront plus visibles, mieux connus, ils auront davantage de réseaux, d'opportunités, etc. Mais ce sera possible de s'en sortir sans ça sur la base de ces travaux. En IA, vu qu'il y a plus de monde, la pression sur les congrès est plus grande en termes de nombre de personnes à faire parler, donc les exposés ont tendance à être beaucoup plus courts et donc on se rend de plus en plus compte de l'absurdité. Pour un exposé d'une demi-heure, aller à l'autre bout de la planète, ça paraît déjà beaucoup, mais en IA, parfois, les exposés, c'est 10 minutes, 8 minutes, ou bien c'est juste des présentations de posters. Et donc, ouais, on a des gens qui prennent l'avion pour aller à l'autre bout du monde, pour afficher un poster dans un hall et espérer que quelqu'un vienne les voir et pose des questions. Parfois, ils rentrent bredouilles, mais ça paraît pas être un très bon mode de fonctionnement. En fait, j'ajouterais même à ça que l'impact de la recherche, alors on parle beaucoup empreinte carbone individuelle versus action collective. Je pense qu'il faut que la recherche change ses pratiques, non seulement par rapport à l'impact immédiat de combien de tonnes de CO2 on émet et de combien de tonnes de CO2 ça ajoute dans l'atmosphère, mais aussi de ce que ça implique par rapport à notre culture et notre perception de l'urgence climatique. C'est-à-dire, je pense, en science, on a un peu alors surtout pour les sciences de l'environnement, qui eux aussi se posent la même question, on a un devoir d'exemplarité. Si nous, on ne prend pas ça suffisamment au sérieux pour arrêter de voyager, qui le fera ? Est-ce que des décideurs politiques peuvent prendre la crise climatique au sérieux s'ils voient que des chercheurs, même des chercheurs en sciences environnementales, continuent à prendre l'avion pour aller se prendre discuter à des pauses café les uns avec les autres ? Donc je pense qu'il y a un autre impact aussi.
Alors forcément maintenant, je vais te poser la question des solutions pour mettre un terme à ces pratiques ou au moins en atténuer les effets sur le climat. Alors comment tu vois l'avenir ?
En gros, il y a deux choses. Il y a changer le système tel qu'il est pour essayer de l'infléchir dans une autre direction et essayer de créer des nouvelles choses qui s'affranchissent du système existant. Et souvent, alors, de mon expérience d'avoir tenté d'impulser des changements dans le système, c'est plus motivant de construire un nouveau truc en espérant que les gens s'y intéressent de plus en plus, plutôt que d'essayer de se cogner la tête contre un mur et essayer de le faire changer de direction. Donc, pour ce qui est de faire changer de direction le système actuel, je pense qu'il faudrait que les conférences aujourd'hui acceptent que les gens ne vont plus forcément venir en présence parce que les gens ne peuvent pas forcément venir ou que d'un point de vue climatique, ça n'a pas de sens qu'ils viennent, et autorisent les chercheurs, à minima en informatique, à publier leurs travaux comme s'il s'agissait d'un journal, mais sans faire de présentation, ou bien avec une présentation en ligne. Parce que le côté obligatoire du voyage, alors ça fait des événements qui sont conviviaux, mais vu que c'est des événements qui sont excluants et qui du coup s'adressent à la minorité de gens qui peuvent y aller, et que c'est des événements avec un lourd impact carbone, ce serait bien que pour celles et ceux qui ne veulent pas faire ça, il y ait une autre option. Ça, ce serait bien. Alors, je pense pas forcément qu'il faut passer tous les congrès en virtuel parce qu'on a bien l'expérience que la convivialité n'est pas forcément la même. Les échanges, alors, c'est pas forcément tant pour les exposés, mais pour les échanges informels après, au pause café ou des choses comme ça, la possibilité d'entrer et de sortir de petites discussions facilement n'est pas la même dans un événement physique et dans un événement en ligne. Mais il faut que, je pense en fait, le message, c'est qu'il faut que quand les gens voyagent, au moins ils soient sûrs de voyager parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils ont envie de rencontrer des gens. En termes d'innovation, je pense que ce serait bien aussi d'expérimenter plus avec des modes de publication différents, notamment donc des journaux ou des journaux à publication plus rapide, pour aussi d'un point de vue scientifique, le cycle de publication, il est très lent et c'est pas forcément la chose la plus agile. Et alors, donc, c'est quelque chose qui est particulièrement vrai avec les journaux en informatique parce que, encore une fois, on parle de 1 ou 2 ans de délai entre la soumission de l'article et l'acceptation. Donc, les conférences sont un peu plus rapides. Mais déjà maintenant, et notamment dans des disciplines qui bougent vite en ce moment comme l'IA, on voit que les gens fonctionnent beaucoup à base de ce qui s'appelle des préprints. C'est-à-dire que dès que l'article est prêt, l'article est mis en ligne, l'évaluation, tout ça, ça se passe après. Mais l'article est déjà là pour que des gens puissent le regarder, le commenter, voire l'améliorer. Et parfois, sur des problèmes vraiment dynamiques, parfois ce processus, il va plus vite que la publication scientifique traditionnelle. C'est-à-dire, on a un article, un préprint qui est posté, d'autres gens qui repostent un autre préprint qui améliore un peu le résultat, etc. Il y a une sorte de course au préprint qui prend complètement de vitesse le processus scientifique traditionnel. Et essayer de voir que ça se passe, parce que finalement, c'est ça qui a la valeur scientifique. C'est pas le tamponnage après coup de dire, bon, OK, ils ont fait de la bonne recherche, on publie dans un journal. Enfin, ça, c'est important pour l'évaluation, mais pour le progrès de la connaissance, ce qui est important, c'est que l'échange puisse se faire vite et que ce mode de fonctionnement à base de préprint puisse être reconnu et encadré, ou en tout cas qu'on puisse se rendre compte qu'il a vraiment de la valeur scientifique. Et donc, je pense qu'il y a un espoir que l'activité de recherche se focalise de plus en plus sur des pratiques comme ça qui sont possibles grâce au numérique. Parce que la culture des colloques est antérieure au numérique, en fait. Les colloques en informatique datent d'avant Internet. Et donc, ce serait bien que la recherche, en tout cas en informatique, prenne acte de l'existence d'Internet, un outil qu'elle a aidé à créer, pour avoir des modes de collaboration et de création de nouvelles connaissances qui ne nécessitent pas forcément de se déplacer.
Merci de nous avoir suivis. On espère que ce pas de côté vous aura éclairé sur la question des impacts de la recherche sur le climat. On espère aussi avoir ouvert quelques sujets de réflexion sur l'inclusivité des pratiques académiques. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochains épisodes avec les chercheurs de Télécom Paris.